Et c'est l'heure du LEM, l'émission quotidienne de Transistor, du lundi au vendredi. Aujourd'hui, alimentation et santé, en partenariat avec la Maison de l'agriculture biologique du Finistère.
LEM, l'émission, sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Magazine LEM qui vous aide à bien vivre en Finistère et ailleurs. Aujourd'hui, on retrouve notre partenaire, la Maison de l'agriculture biologique du Finistère, qui nous fait découvrir les ordonnances vertes. J'avoue que je n'en avais jamais entendu parler et pourtant c'est une excellente idée, vous allez comprendre. Si je vous parle de sport sur ordonnance, ça vous dit quelque chose? C'est un sujet qui a surgi assez récemment pour inciter les malades ou les bien portants à profiter des bienfaits du sport sur la santé. Et si je vous dis une pomme par jour éloigne le docteur, là vous comprenez qu'il s'agit d'alimentation. Et oui, notre sujet du jour a pour thème une prescription médicale, mais alimentaire, et c'est du bio. Marion Pfirsch de la MAB et du GAB va nous expliquer pourquoi. Bonjour Marion.
Bonjour.
Un petit peu, le micro un petit peu plus... Voilà, merci. Et puis aussi à distance, il y a la docteure Estelle Michelet qui est médecin à Fouesnant et qui parle aujourd'hui en tant que représentante de la CPTS, Communauté des professionnels de santé du pays fouesnantais. Elle est aussi adhérente de l'AMLP, Association Alerte Médecins Pesticides. Bonjour.
Bonjour.
Alors Estelle Michelet, on va commencer avec vous puisque c'est l'AMLP qui a créé en fait les ordonnances vertes. Est-ce que vous pouvez nous refaire un peu l'histoire de cette opération, de cette idée ?
Oui, alors l'histoire, elle démarre à Strasbourg surtout. Hein. C'est des leaders hein, dans cette ville. C'est effectivement eux qui ont lancé le sport sur ordonnance, l'activité physique adaptée. Et en 2023, ils lancent ce projet sur Strasbourg, autour des perturbateurs endocriniens. C'est une ville qui est aussi très investie dans le réseau Ville Santé de l'OMS en lien avec Paris. Donc, ils sont leaders sur la santé. Et ils le lancent sur 800 femmes au départ. Et ils en sont à 1500 maintenant. C'est un programme qui a essaimé en France depuis, qui globalement est sur le même format d'atelier, et ensuite qui est décliné localement selon les ressources locales et les financements.
Alors à Strasbourg, c'était des femmes enceintes aussi, comme ce que vous faites en Pays Fouesnantais.
Ouais, c'est vraiment le principe, hein, c'est période de grossesse sur les perturbateurs.
Alors les perturbateurs endocriniens, enfin vous allez nous rappeler, puisque vous êtes médecin, vous allez nous rappeler un peu tous les liens qu'on a vraiment pu établir, hein, qui sont scientifiquement établis, entre l'alimentation et la santé, enfin du point de vue notamment des perturbateurs endocriniens, mais aussi des pesticides peut-être, puisque votre association elle s'appelle Alerte Médecins Pesticides.
Oui, tout à fait, non, c'est Alerte des médecins sur les pesticides et plus récemment... et les perturbateurs endocriniens, donc on a élargi, mais effectivement la majorité des pesticides sont des perturbateurs endocriniens.
Ça veut dire quoi d'ailleurs point... Ça veut dire quoi perturbateurs endocriniens
Tout à fait. De quoi on parle en fait, parce que c'est assez obscur, globalement. Hein, ce sont des substances chimiques d'origine naturelle, et donc le lin ou le soja, ou bien d'origine artificielle comme les pesticides. Ce sont des substances qui sont omniprésentes, vraiment partout, dans notre alimentation, dans l'air, dans les cosmétiques, dans les produits ménagers. Et ce sont des substances qui vont interférer, perturber le système hormonal. Endocrinien, ça veut dire hormonal. Et quand on dit hormone, bah là, on vient toucher à tout ce qui régule l'ensemble de l'organisme. Donc, les gens connaissent bien les œstrogènes, qui va avoir un impact sur le sein, sur la puberté. Les gens connaissent la testostérone et l'action sur les testicules, sur la prostate, mais on connaît aussi les hormones thyroïdiennes ou bien l'insuline sur le pancréas. Donc, on voit bien, ça régule l'ensemble de notre fonctionnement.
Et ça, ils sont présents naturellement, mais pas seulement, en fait, dans l'alimentation.
C'est bien le souci.
Ouais. Comment ils sont présents ?
Alors, ils peuvent l'être soit par la transformation par les industries. Hein, donc là, on parle du chapitre alimentation et aliments ultra transformés. Et puis sinon, c'est des contaminations par notamment les pesticides au cours de la transformation. donc les herbicides, les fongicides, les insecticides, qu'on va retrouver sur les aliments, et là pour le coup plutôt fruits et légumes, mais aussi dans les viandes, tout ce qui va venir de l'agriculture.
Des médicaments qui sont donnés aux animaux, en fait, notamment, qui se retrouvent dans notre corps, c'est ça?
Oui, aussi, ouais, vous avez raison, tout à fait. En dehors de l'alimentation, les médicaments en eux-mêmes sont aussi potentiellement perturbateurs endocriniens, ouais, donc, y compris ceux qu'on donne aux animaux. Ouais.
Et sur les femmes enceintes, est-ce que, par exemple, on avait constaté des effets, enfin, je sais pas, sur leur enfant, sur elles, directs, quoi?
Oui, alors... Perturbateurs endocriniens et grossesse, c'est forcément un chapitre. En fait, il y a ce qu'on appelle les fenêtres d'exposition par rapport aux perturbateurs. Et notamment, cette idée que la grossesse, la petite enfance et l'adolescence sont des périodes avec des fenêtres d'exposition très particulières où l'organisme va être sensible à l'exposition à ces perturbateurs. Donc la notion de fenêtre d'exposition, et notamment la grossesse, c'est central. Donc ce qu'on a repéré hein, sur les femmes, c'est ce que je vous disais sur la puberté, donc par exemple l'âge des premières règles, mais aussi nos notions de fertilité et donc d'infertilité qui concernent les femmes et femmes enceintes à venir, mais aussi les hommes, c'est-à-dire que les futurs papas et donc leurs gamètes, les spermatozoïdes, hein, sont impactés par l'exposition aux perturbateurs.
Et puis, il y a encore eu des études récentes sur, cette fois pas forcément les perturbateurs endocriniens, mais les pesticides et la santé, des liens qui commencent à être vraiment établis. Si vous avez des exemples.
Bah oui, bien sûr. Donc là, on ne peut pas ne pas mentionner l'INSERM 2021, qui est vraiment notre étude référence, qui a colligé l'ensemble des publications internationales jusqu'à 2018. Et là, c'est vraiment clair. Leur sujet a été de parler en force du lien, de présomption entre l'exposition aux pesticides et le lien vers les maladies. Et donc, il y a des choses qui sont vraiment, vraiment franches, avec des liens qu'on a dit forts, notamment dans le milieu professionnel, d'ailleurs, agriculture, mais pas que. Et donc, pour les agriculteurs, hein, c'est les troubles cognitifs, la maladie de Parkinson, le lymphome non hodgkinien et le myélome. Et
donc des cancers un peu, enfin,
ouais,
même
ouais,
complètement.
Mais pas que, un truc cognitif, hein. Lien fort. Et aussi un lien fort pour l'exposition des parents, père et mère, vis-à-vis des leucémies, des tumeurs cérébrales de l'enfant à venir. Ça, c'est un lien fort. Et puis des liens moyens, aussi professionnels, mais pas que, avec l'Alzheimer, les cancers de vessie du rein et les TSA, troubles spécifiques, notamment de l'attention chez les enfants. Donc ça, c'était lien fort. Je vous passe les liens moyens et liens faibles, mais clairement, ça, c'est établi. Pesticides santé, ça s'est formalisé.
Oui, parce que le problème, évidemment, c'est qu'on ne peut pas mener des expériences, comme on dit, des expériences avec un groupe contrôle, des gens qui ne mangeraient pas de pesticides, des gens qu'on gaverait de pesticides. Éthiquement, ça serait un peu un problème.
Ouais, sur un plan éthique, ça ne se passe pas tout à fait comme ça en France.
On est obligé de faire avec le comportement des gens, en fait, c'est ça, quoi. On étudie des gens.
Alors, ouais, en fait, il y a beaucoup d'études sur les animaux. Ils payent un lourd tribut pour la recherche dans la science. Donc ça, c'est très établi depuis début du XXe et beaucoup depuis l'ère industrielle. Rachel Carson, un printemps silencieux, avait bien documenté ça. Donc sur les animaux, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, là, les scientifiques ou presque, et c'est très établi. Ces pathologies, ces anomalies, elles sont vraiment prouvées. Sur les humains, on est plus à faire des études de cohorte. C'est-à-dire, en fait, on va inclure une population et qu'on va suivre sur des années si possible. Et on va plutôt à base de questionnaires, hein, c'est souvent ça, voir étudier comment ils évoluent sur leur alimentation, leurs nouveaux problèmes de santé, leur mode de vie, notamment l'activité et l'alimentation, et la survenue de maladies sur le long cours. Donc, ce sont des études qui sont longues, chères. Et forcément, si on veut mettre des effets en évidence sur le long terme, il faut du temps et de l'argent.
Marion Pfirsch, est-ce que la Maison de l'Agriculture Bio connaissait les ordonnances vertes avant d'être contactée par Estelle Michelet ?
Oui, tout à fait. En fait, c'est un projet donc, qui a été, donc, comme elle le disait, créé à Strasbourg. Mais notre réseau de groupement des agriculteurs bio s'en est très vite saisi. Et on a notamment répondu à un appel à projet national avec les groupements d'agriculteurs bio de Bretagne et de Pays de la Loire en 2025. Dont on a été lauréat, le Programme National pour l'Alimentation. Et donc, notre mission dans le cadre de ce programme-là, c'était de déployer justement les ordonnances vertes sur le territoire Bretagne et Pays de la Loire. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a notamment rencontré la CPTS du Pays Fouénantais, mais aussi les contrats locaux de santé. Voilà, on a essayé de lancer un peu des pistes sur le Finistère pour voir les structures qui pourraient être intéressées par ce projet et s'en saisir à nos côtés.
Alors, on reviendra sur peut-être les autres opérations, mais là, on va se concentrer sur celle du Pays Fouénantais. Alors, déjà, Estelle Michelet, il faut redire ce qu'est une CPTS, Communauté des Professionnels Territoriales de Santé, c'est ça? J'ai bon?
On y est globalement, effectivement, c'est assez obscur ce terme. Alors, c'est l'idée qu'en fait, l'ensemble du territoire est maillé sur un plan local. Ça permet à l'ensemble des professionnels d'un territoire de travailler ensemble. Donc, ce n'est pas forcément adossé à une communauté de communes ou à un secteur de santé défini. Et en l'occurrence, pour nous, Pays Fouénantais, il se trouve que ce sont les 7 communes qui composent la communauté de communes du Pays Fouénantais.
Mais vous êtes indépendant et vous avez décidé de mener cette opération. Comment est-ce que vous appliquez concrètement, localement, les ordonnances vertes?
Donc, en fait, au sein de la CPTS, on peut avoir des groupes de travail. En l'occurrence, à Fouénant, on a un groupe de travail santé-environnement qui regroupe différentes professions. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on est tous concernés. Donc, des médecins, mais aussi des pharmaciens, des dentistes, orthophonistes, infirmiers, nutritionnistes, sages-femmes. Et en fait, on a réfléchi à comment décliner localement ce qui est une trame globalement nationale, quoi. L'idée, c'est qu'il y a 2 temps dans ce programme. Un premier temps avec 2 ateliers. Un atelier qui est vraiment sur les perturbateurs. On vient expliquer ce que c'est, où est-ce qu'on les trouve et donc du coup comment limiter l'exposition.
Donc pour les femmes enceintes qui sont à 10 ou 12 semaines, c'est ça, le public.
Oui, alors c'est ça. Comment on rentre dans le programme, effectivement? Donc il faut être enceinte et habiter le Pays Fouénantais. Ce sont les 2 critères pour rentrer dans le programme.
Donc on suit un premier atelier. Perturbateurs endocriniens et alimentation. C'est ça.
Et ça, on y entre par le fait d'avoir une ordonnance. Alors, c'est un peu factuel, mais qu'en gros, qu'il y a un soignant du territoire qui est certifié que ces dames sont enceintes. Et donc, cette ordonnance, du coup, dite verte, qui est un peu une fausse ordonnance, est transmise à la CPTS du Pays Fouénantais, qui, donc, ensuite, vont permettre leur inscription dans les 2 ateliers à suivre. Donc, premier atelier sur les perturbateurs, c'est un atelier qui est ludique, pratique, avec des tables organisées. On a mis des produits, des paquets, des cosmétiques, différents, en gros, un peu les pièces de la maison.
Ah oui, il n'y a pas que de l'alimentation, alors. Ouais.
Eh ben non. Ça, c'est le deuxième.
Très bien.
Premier atelier, on discute perturbateurs, surtout ce qui est hors alimentation. Ouais.
Très bien. Ensuite.
Puis un deuxième atelier sur l'alimentation, où là, on se retrouve pour un atelier cuisine, notamment à la Belle Affaire à Fouénant. Et on va discuter concrètement produits de saison bruts, qu'est-ce qu'on fait avec un potiron. Et on va les cuisiner, notamment avec l'aide d'une nutritionniste du secteur qui a prévu un plat et ou une entrée ou un dessert. Et on va rendre concret comment transformer et cuisiner ce qu'on a actuellement en théorie chez nos maraîchers et rendre ça simple, accessible, facile. Et montrer que c'est pas cher et qu'on peut nourrir de manière très saine toute une famille avec des recettes simples. C'est ça l'idée.
Donc ça veut dire qu'il y a des agricultrices et agriculteurs qui participent aussi, quoi. Enfin, forcément.
Alors en tout cas, l'idée c'est de se fournir auprès d'eux pour faire cet atelier cuisine tout à fait. Et donc on s'appuie sur les producteurs locaux. Ouais.
Et vous avez commencé déjà, enfin vous avez déjà recruté les femmes, enfin combien de femmes d'ailleurs seraient concernées?
Ouais, donc en fait. Petit territoire, donc, mais quand même, dynamisme quand même en natalité. Globalement, on part sur 180 femmes enceintes par an sur la communauté de communes. Et on a observé qu'au niveau national, généralement, les premières années, c'est 30% à peu près des femmes qui vont rentrer dans le dispositif. Donc, pour nous, on a donc tablé sur 60 femmes pour cette année. Et oui, nous venons de démarrer. Tout juste la semaine dernière, le premier atelier perturbateur a démarré avec 5 mamans. Et un papa. Donc, évidemment, les ateliers s'adressent aux coparents.
Ah oui, intéressant.
Et donc, en l'occurrence, cette dame-là, elle était alitée. Et donc, c'est son conjoint qui est venu assister. Donc, l'idée, c'est que le coparent et ou éventuellement le grand-parent qui va s'occuper du petit puisse venir à cet atelier.
Voilà, la participation est obligatoire pour avoir les bons d'achat bio.
Alors, ouais, ça, c'est un truc qui est essentiel. C'est-à-dire que le but n'est pas le bon d'achat. on va dire c'est la carotte peut-être, mais non, l'idée c'est de monter en connaissance là sur les perturbateurs, et donc faut avoir assisté aux deux ateliers, et à l'issue des deux ateliers, effectivement, on leur remet ce chéquier de bon d'achat.
Et c'est l'équivalent de 200 € pour 15 semaines d'achat, c'est à peu près ça.
Ouais, en fait, hein, l'idée c'était de se dire, il faut qu'elles soient enceintes, qu'elles aient eu leur déclaration de grossesse, donc ça nous amène souvent vers 3 mois quand même, 12 semaines d'aménorrhée. Qu'elles aient assisté aux deux ateliers, donc ça va prendre encore 1 mois. Donc globalement, on visait un panier hebdomadaire d'un montant éventuel de 15 € sur à peu près 4 mois, donc ce qui fait à peu près 200 € par femme. Donc il y a, pour nous, on fonctionne en mode chéquier. Et globalement, le projet initial était plutôt sur un mode panier hebdomadaire.
Oui, c'était une éco, un panier bio, le slogan. Marion Firch, justement, c'est la maison de l'agriculture bio, enfin, le GAB, qui a trouvé la solution, parce qu'en fait, il y avait des problèmes qui se posaient aux agriculteurs et agricultrices.
Oui, donc au début du projet, on a organisé avec la CPTS et les agriculteurs bio du territoire des petites réunions de concertation pour se rencontrer, parler du projet et essayer de s'organiser. Et on s'est vite rendu compte que pour les agriculteurs, ça pouvait être une contrainte supplémentaire de devoir organiser des paniers, des livraisons de paniers de produits bio en plus de leur point de livraison habituel. D'autant plus qu'ils n'avaient pas forcément besoin de plus de débouchés sur le territoire. Voilà, leur production était déjà écoulée. Donc cette contrainte logistique-là pour créer des paniers, voilà, créer un nouveau lieu de vente, composer des paniers, on a essayé de l'éviter et d'éviter voilà, des contraintes en termes de temps et d'organisation pour les agriculteurs. Donc on a eu cette idée de proposer ce format de chéquier. Donc là, on le disait, les mamans vont recevoir un chèque de 200 € qu'elles peuvent utiliser librement sur la période.
C'est un seul chèque, voilà. D'un coup.
Voilà.
Ouais, okay.
Alors, c'est un chéquier avec plusieurs chèques d'une valeur de...
Oui, voilà, oui.
d'une valeur de 10 ou 5 euros. L'idée, c'est que du coup, elles vont aller directement sur les points de vente existants des producteurs.
Il y en a combien environ des points de vente
Alors, en termes de points de vente, je ne me souviens plus, Estelle, mais en termes de producteurs, il y en a 7.
Voilà.
Et oui. Donc, l'idée, ça va être d'aller directement sur leur marché, sur leur ferme, quand ils ont des points de vente à la ferme, sur leur, voilà, s'ils ont des différents points de vente sur le territoire. Donc ça a plusieurs avantages. Ça va faire venir les habitants, les habitantes directement sur les points de vente. Et donc de là va découler un deuxième avantage qui va être que ça va créer des nouvelles habitudes d'achat. L'idéal, ce serait que ces habitudes d'achat soient pérennisées à la suite du projet.
Évidemment.
Le fait de créer des nouveaux liens avec les producteurs du territoire.
Oui. Estelle Michelet, justement, vous constatez, quand vous avez affaire à des patientes, patients, quels qu'ils soient d'ailleurs, et que vous leur parlez d'alimentation bio, qu'est-ce qu'ils répondent ?
C'est un sujet qui est souvent perçu un peu comme politique, quand même. C'est-à-dire que, et surtout dans le contexte actuel, hein, il y a un petit mélange bio, écologie, et un courant qui n'est actuellement pas tout à fait favorable. Hein, donc, il y a... En tant que médecin, certains peuvent se sentir, ou soignants en tout cas, pas forcément légitimes ou n'ont pas forcément les connaissances ou la culture en tout cas pour aller parler, mettre en avant le bio dans une consultation ou un échange avec des patients. Et là, pour moi, c'est une erreur parce qu'en fait, en termes de preuves scientifiques, on sait que la première cause de contamination par les perturbateurs, c'est l'alimentation. Notre job est essentiellement, on passe beaucoup de temps sur la prévention, et donc l'alimentation, c'est quelque chose de central dans notre boulot. Donc ça, en tout cas, il n'y a pas de frein à avoir. L'alimentation, c'est une source de bonne ou de mauvaise santé. On sait qu'en mangeant bio, on est moins exposé à la contamination par les pesticides. C'est prouvé, c'est Nutrinet Santé, il n'y a pas de débat. Et ensuite, on sait que globalement, on va pouvoir avoir un impact sur, par cette alimentation, sur les cancers, sur le diabète, sur le cholestérol. Donc, clairement, il y a une légitimité totale des soignants à aller parler bio. Après, on peut avoir un frein personnel ou culturel. Voilà, ça, c'est autre chose. Donc, ça, c'est une première remarque du côté soignant. Effectivement, la réception en face du côté des patients, c'est pas forcément simple parce qu'on va très vite avoir, potentiellement, selon les gens qu'on a en face, une réaction bah, le coût. Ça, c'est quelque chose qui sort beaucoup. Avec bah, le bio, c'est plus cher que voilà, je ne peux pas nourrir toute ma famille. Bon, et ça, on peut expliquer. Je pense que la MAB l'expliquera très bien. Il y a beaucoup de documents là-dessus. Donc, en tout cas, je pense qu'il ne faut pas s'empêcher d'en parler. Ce n'est pas politique de parler bio, c'est de la santé publique. Et donc, il ne faut pas se freiner là-dessus. C'est notre job. Hein.
Et l'association à laquelle vous appartenez, des médecins contre les pesticides, ça représente quelle proportion des médecins en France, les adhérentes ?
Ah bah, c'est toujours pareil. Hein. Ça reste une petite structure en termes d'adhérents, bien sûr. Par contre, ça a un écho national parce que ça porte les tendances vertes, ça soutient énormément. La MLP contribue au dépôt de projets de loi, notamment sur les ordonnances vertes, hein, qui a été déposée en septembre là, 2025. Ça contribue aux tribunes dans la presse nationale, notamment Le Monde. Elle contribue aussi là au prochain congrès qui a lieu début avril, Pesticides et Santé à Montpellier, qui va être un moment très fort sur ça. Donc, c'est une petite structure d'une centaine globalement d'adhérents actuels, mais qui rayonne fort, qui a un bon impact au niveau national.
Est-ce que vous sentez que vous êtes suivi quand même par les pouvoirs publics? Je veux dire, les législateurs, par exemple, puisque vous les évoquiez.
Alors, les législateurs, et on ne fait pas de politique en cette période pré-municipale, mais bon, concrètement, le PNNS, par exemple, on pourrait dire.
Plan national de la nutrition santé, oui.
Ouais, hein, tout à fait, hein, qui a dû se terminer en 2023, puis devait être refait en 2024, puis sorti en 2025, et qui n'est toujours pas sorti. On est quand même du côté du législateur, là aussi, notamment pour différentes pressions et formulations qui ne convenaient pas à certains lobbies. Évidemment, il faut quand même citer.
Mais oui, il faut dire les choses comme elles sont. Ouais, mais d'ailleurs, vous êtes un lobby aussi, mais dans l'autre sens.
Alors voilà, on était obligé de se le dire, tout à fait.
C'est pas un gros mot.
La santé
hein.
publique, non, tout à fait, pas du tout. Et d'ailleurs, c'est la MLP, mais par contre, ce sont des soignants qui parlent et adossés à des données de la science avérées.
Sur lesquelles peut s'appuyer la Maison de la Bio, Marion Fierch, quelles sont les autres actions en Bretagne qui sont menées de type ordonnance verte?
Oui, du coup, en Bretagne, il y a d'autres actions qui ont été menées récemment. En Finistère, on a notamment le service santé de la ville de Brest qui s'est saisi de la question, où on va mettre en place des ateliers, un peu le même type d'atelier, autour des perturbateurs endocriniens, ateliers cuisine, mais on va aussi aller un petit peu plus loin avec d'autres ateliers, visites de ferme, un escape game sur l'alimentation et les produits transformés.
Donc ça, c'est Brest et Métropole ou la ville?
La ville, le service santé.
D'accord.
Oui. Donc ça, c'est pour Brest. Par contre, il n'y a pas le côté livraison de paniers de produits bio.
Plus de la pédagogie, la sensibilisation.
Il y a plus le volet pédagogique à destination des familles. Dans les Côtes d'Armor, il y a deux projets qui vont probablement émerger là en 2026, sur Lannion avec une maternité et sur Dinan avec un cabinet de médecins, et sur Vannes, sur les quartiers prioritaires de la ville, donc un peu la même formule que sur Brest, mais là il y aura une distribution de paniers justement hebdomadaires.
Ah oui, donc là pas de chèque, carrément des paniers.
Voilà, bon. Là ils ont mis en place le modèle classique, on va dire.
Et vous pensez qu'il y aura d'autres projets comme ça qui pourront émerger, parce qu'il y aura des financements pour continuer à faire ce type de projet ordonnance verte?
Eh bien oui, on aimerait bien, c'est l'objectif, donc on est toujours en recherche de financement pour pérenniser le projet.
Très bien. Estelle Michelet, un petit mot de conclusion sur les enjeux de ces opérations qui ne sont pas seulement de permettre l'accès financier aux produits bio?
Oui, bien sûr, hein. On est vraiment dans cette idée de mettre en place des habitudes à une période clé où les parents, coparents sont très sensibles au changement d'habitude, bien sûr. Mais au-delà de ça, limiter les consommations de produits exposés aux pesticides, c'est bénéfique pour l'ensemble de la santé de la population, clairement. Et en termes de santé publique, on fait face à une épidémie de cancer liée à la santé environnementale, hein. On est là-dedans, donc il y a un bénéfice pour tout le monde. Et on pourrait discuter du coût total pour la santé et pour l'économie générale de la France en lien avec des pesticides, mais ce sera peut-être l'occasion d'une autre émission.
Et Marion, les enjeux pour les productrices et puis le système bio, de production bio?
Eh ben, je pense qu'il y a oui, de réels enjeux de développement de la consommation bio, parce qu'il y a un réel enjeu de santé publique, voilà, de prévention pour notre santé. Donc ça, on le disait, c'est le rôle de l'État, en fait, de s'en saisir. C'est des coûts qui vont être portés par l'État plus tard quand on sera malade.
Et voilà.
Donc autant les anticiper. Et c'est vrai que, par exemple, ça pourrait être une idée d'intégrer dans les programmes de formation des corps médicaux un volet santé environnementale, prévention autour des pesticides. Voilà, ce serait peut-être une idée aussi à développer ouais. au niveau national.
Autour de l'alimentation, voilà. Très bien. Eh bien, je vais vous remercier toutes les deux d'avoir participé à cette émission. Alors, bien sûr, on peut la réécouter sur le site internet de Transistor. Et puis, les ondes ne s'arrêtent jamais. On retrouvera aussi la maison de l'agriculture bio très bientôt dans l'EM. Merci.
Merci.
Au revoir.
Merci.